Le 6-9 du week-end.
Alain Baraton, vous avez bien votre tête, toute votre tête.
Je l'espère.
Bonjour Alain. Il a beaucoup été question donc cette semaine des arbres qui ont donné les poutres de Notre-Dame de Paris.
Il a fallu en effet près de 1300 chênes centenaires pour construire la forêt, le nom donné à la charpente de la cathédrale. Si ce sont des chênes qui ont été choisis, c'est bien évidemment pour la dureté de leur bois et cette incroyable résistance à l'usure du temps.
Les chênes ont une grande importance dans l'histoire de notre civilisation.
Dans la mythologie romaine, l'arbre est associé à Jupiter, le maître des dieux. Pour les Celtes, le chêne est sacré et c'est dans ses branches que les druides viennent cueillir le gui. Il est aussi sacré pour Saint Louis qui rend la justice sous son branchage. Pour les généraux qui en possèdent sur le képi, ce sont aussi des feuilles de chêne qui ornent la médaille de la Légion d'honneur.
Et toutes les époques ont célébré le chêne?
Pendant la Révolution française, il est célébré le 2 du mois de Florial, ce qui correspond au 21 avril.
Et justement, nous sommes aujourd'hui le 21 avril.
D'où l'importance de célébrer l'arbre qui unit les amants liés par le mariage depuis 80 ans. Quand je pense au chêne, je pense aussi à la une du Figaro du 10 novembre 1970. Jacques Faisan dessine Marianne qui pleure sur le tronc d'un arbre, déraciné. C'est bien sûr un chêne et il annonce la mort du général de Gaulle. Je pense aussi à Victor Hugo, lui qui aimait tant Notre-Dame de Paris, quand il écrit son amour pour les arbres et pour le chêne en particulier.
Vous voulez que je lise les mots de Victor Hugo ?
S'il vous plaît.
Sachez que nous pouvons faire sortir de terre le chêne triomphal que l'univers attend et faire frissonner dans son feuillage austère l'idée au sourire éclatant.
Et Victor Hugo poursuit qu'il soit l'arbre univers, l'arbre cité, l'arbre homme, et que le penseur croit un jour, sous ses abris, entendre en ses rameaux le grand soupir de Rome et le grand hymne de Paris.
Et Alain Baraton...
Il est quand même sacrément doué cet auteur. Il a une manière d'associer les mots. On comprend pourquoi son nom, sa gloire posthume est intacte.
On dirait que ce serait un grand écrivain, tiens donc.
Oui.
Vos réponses aux questions des auditrices, auditeurs de France Inter. Stéphanie nous parle de ces orangers du Mexique. Ils sont superbes, écrit-elle, mais ils présentent par endroits des feuilles marrons, sans doute mortes. À quoi est-ce dû et que puis-je faire?
Tout dépend de la quantité. Je rappelle que les arbustes persistants, et l'oranger du Mexique est persistant, ne perdent pas leurs feuilles à l'automne, mais ils les renouvellent régulièrement.
Un mot sur le persistant.
Alors, le persistant, c'est un végétal qui garde ses feuilles tout au long, qui reste vert toute l'année. Ouais. Le caduc est l'arbre qui, au contraire, à l'automne, se défait d'une partie de son branchage pour en reproduire au printemps, et le marcescent est comme le hêtre ou le chêne, la plante qui perd ses feuilles à l'automne, sauf qu'elle sèche et reste sur l'arbre, et elle tombe du végétal avec la poussée des nouvelles feuilles.
On pourrait aussi parler des remontants, c'est-à-dire que ça remonte à période régulière.
Voilà, remontant, c'est quand une plante comme un framboisier va fructifier une première fois, par exemple, au printemps, et une deuxième fois en été. Voilà, il y a des termes, effectivement, de jardin, qui sont d'ailleurs souvent de très beaux termes, et qui définissent bien ce qu'est un végétal.
Et que faire donc pour son oranger du Mexique?
Connaître la cause exacte de la mort subite des feuilles. Soit c'est en petite quantité, c'est normal, ça se produit régulièrement, soit il y a eu un petit souci qui n'est peut-être pas très grave. Ce qui compte, c'est maintenant l'apparence, un peu comme les cheveux. Quand vous avez quelques cheveux qui tombe, c'est pas grave, quand tout tombe d'un coup, là il y a de quoi se préoccuper, on ne se moque pas.
Certainement pas, Patricia. France nous parle de son figuier. À l'époque, elle pouvait encore le recouvrir d'un filet pour garder les fruits, elle récoltait jusqu'à 40 kilos de figues, mais maintenant c'est impossible, et les oiseaux mangent la totalité des fruits. Que puis-je faire pour repousser les oiseaux?
Vous imaginez, en ce dimanche de Pâques, vous ouvrez les volets de votre maison, vous habitez dans une région agréable, et vous avez sous vos yeux ébahis des oiseaux qui viennent gazouiller, qui viennent vous dire le bonjour.
Et
moi, je
les
crois
figues,
qu'aujourd'hui, il faut accepter l'idée de partager la promesse d'une récolte avec les petits oiseaux. Mettre des filets, c'est extrêmement cruel parce que quantité d'oiseaux finissent par mourir en s'étant complètement, j'allais dire, fait attraper par le filet. Mettre des soi-disant CD, vous savez, brillants pour éloigner, oui, ça ne sert à rien si ce n'est à aveugler le voisin et à l'énerver. Alors, il y en a qui mettaient autrefois de l'anchois, vous savez, du poisson.
Des anchois?
Je crois pas que ce soit vraiment efficace. D'autres mettent des bas, je plaisante pas, parce qu'il paraîtrait que le bas, je parle bien du bas féminin, usagé bien évidemment, l'odeur ferait fuir les oiseaux. Non. On laisse faire.
Bon, on laisse faire la nature.
Comme si toutes les femmes puaient des pieds. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais je parle de vieille technique. J'ai beaucoup trop de respect et d'amour pour les femmes pour penser la moindre chose désagréable à leur endroit.
Gilbert nous parle de ces boutons de camélia. Cette année, les boutons de mon camélia avortent et tombent, alors qu'ils étaient pourtant protégés cet hiver.
Classique. Je le dis souvent déjà, protégé, ça ne sert rien. Le camélia résiste à des températures très basses. Un problème d'atmosphère, d'humidité atmosphérique. numérique. Contentez-vous simplement de pulvériser de l'eau sur les camélias quand ils sont en bouton et vous verrez qu'ils ne sécheront pas, qu'ils s'épanouiront et donneront des fleurs merveilleuses.
Guy nous parle de son forsythia dans sa résidence. Il a un comportement bizarre, dit-il. Il n'a pas fleuri, on le croyait mort et voilà que depuis 2 jours, les feuilles réapparaissent, mais toujours pas de fleurs. Que se passe-t-il ?
Forsythia qui s'appelle ainsi parce qu'on a voulu honorer un pépinier anglais, monsieur Forsyth.
Vous êtes venu nous en parler ici.
Oui, j'aime bien t'entendre rappeler que derrière le nom d'une plante, il y a le souvenir d'une personne. Eh bien là encore, je ne peux pas vous dire la raison. Il a eu un problème. Il a certainement de gros problèmes de santé. Apparemment, il redémarre. Mais généralement, quand un végétal est comme mort et redémarre au printemps, c'est un petit redémarrage printanier qui ne devrait pas durer très très longtemps.
Ingrid a un fils et son fils adore les nèfles. Je me pose la question d'en installer un pied le long de ma clôture. Et Ingrid vous demande, peut-on le palisser ?
Réponse oui, d'autant plus que le néflier accepte les situations ombrées, enfin pas vraiment ombrées, mi-ombrées et ensoleillées. Et oui, on peut le palisser. Mais je suis pas sûr que le nef, quand on dit compter pour des nèfles, ça montre quand même que le fruit est de petite qualité. Oh, je voudrais très rapidement rappeler que rhizome, c'est le nom d'une tige souterraine vivace, mais c'est aussi le nom d'une exposition à la médiathèque Albert Camus d'Antibes. Rhizome de Sylvie de Paris, c'est l'artiste plasticienne. Ce sont des impressions sur tissu suspendu dans l'espace, ainsi que des fragments et expressions végétales sur papier peint. J'y étais la semaine dernière, c'est magnifique. Donc c'est à la médiathèque Albert Camus d'Antibes. C'est une très belle exposition. Rhizome, c'est magnifique.
On ira voir cette exposition. Merci Alain Baraton et à samedi prochain.
À samedi.